Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Disparu en 1990, l'écrivain Colette Audry aura pleinement vécu les tourments et les métamorphoses de son siècle. Enseignante de profession et socialiste de toujours, passée par la SFIO et le PSU, elle devait rejoindre le Parti socialiste renaissant de la fin des années 60. Longtemps membre de son comité directeur, l'influence de cette amie de Simone de Beauvoir y fut déterminante sur les questions touchant à la condition féminine qui l'occupèrent toute sa vie. Directrice chez De Noël d'une collection dédiée aux femmes, auteur de romans et d'essais, récompensée du prix Médicis en 1962 pour Derrière la baignoire, Colette Audry était en 1965 l'invitée de Harold Portnoy dans Impromptu de vacances. Elle disait son aversion d'enfance pour les grands congés de l'été et racontait ses souvenirs de la guerre d'Espagne et de la période de l'occupation.
France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Colette Audry. Assistant Jean-Marc Siafarikas.
Colette Audry, qu'évoque pour vous le terme de vacances ?
Il évoque d'abord pour moi mes vacances d'enfant, dont j'ai gardé un mauvais souvenir. Les vacances, c'était pour moi le moment de l'ennui. C'était le non-emploi, c'était vraiment la vacance de toute chose. Pour moi, l'école m'employait au maximum, m'occupait de toutes les façons. Il y avait le jeu, il y avait le travail, il y avait l'acquisition de 1000 choses nouvelles. Je suis allée en classe assez tard, j'avais près de 8 ans lorsqu'on m'a mis à l'école d'abord. Et j'ai découvert l'école comme quelque chose d'extraordinaire. Si bien que, quand je repense maintenant à toute une série de mes vacances, mais presque jusque vers l'âge de 15 ans, je voyais toujours arriver ces grandes vacances avec tristesse. C'était quelque chose qui s'achevait. C'était toute une année qui se refermait. Des gens d'ailleurs qu'on perdait de vue à ce moment-là, qu'on ne retrouverait plus. Une espèce d'avenir qu'on ne connaissait pas encore. Et puis, entre les deux, ce grand couloir des mois de juillet et d'août et d'une partie de septembre qui avait quelque chose de désolant, de désertique.
L'été s'avançait. Dans les derniers jours de classe, aux jeux par petits groupes, succédèrent d'immenses rondes chantées. J'appris à brailler « Bon, 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 demain c'est les vacances, bon, 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 demain nous partirons ». Les élèves étaient ivres de cette ivresse bête des chœurs et des farandoles, et moi, ivre avec elles, et me sentant bête par là-dessous. D'autant plus bête qu'au fond de cet entraînement, il n'y avait pour moi que désespoir. L'école allait fermer. J'allais me retrouver en tête-à-tête avec Kaki, sous la surveillance de Jeanne et de maman, surveillée, grondée, traitée en enfant, soumise à l'humeur des adultes et asservie de nouveau. En classe, quand je bavardais, j'avais un mauvais point. Je me sentais rougir, mais c'était net et sans drame. J'avais partagé la vie d'une société d'êtres libres, et la tyrannie familiale allait seule régner désormais. J'avais découvert ma patrie, on m'exilait. Tous les jours, à l'étonnement de mes parents et des amis qui se trouvaient là, à peine levé de table, je suppliais qu'on me laissât partir en classe. Le mercredi et le samedi soir, je revenais tristement, en pensant qu'il faudrait rester le lendemain à la maison et se promener en famille l'après-midi. Et j'avais maintenant devant moi 70 dimanches consécutifs à traverser. Chaque fois que la ronde s'arrêtait, en sueur, je voyais s'allonger à n'en plus finir les mornes mois qui m'attendaient. Plus que 5 jours de bonheur, plus que 4. Les récréations se prolongeaient. En classe, on ne faisait plus rien et je regrettais le temps du vrai travail.
Mais que faisiez-vous pendant cette période ?
On allait beaucoup moins en vacances autrefois qu'aujourd'hui. Donc nous restions généralement là où nous habitions. Mon père était fonctionnaire, nous avions des maisons qui avaient des grands jardins. Pendant mon enfance, proprement dite, c'était la guerre. de 14-18, alors on ne bougeait guère. Par la suite, nous avons commencé à voyager, et c'est peut-être ainsi que les vacances ont commencé à changer un peu de caractère pour moi. Mais autrement, je vous dis, c'était le cadre de tous les jours, avec l'inaction en plus. J'avais une petite sœur, mais ma sœur était plus jeune que moi. J'aimais lire, mais la quantité de livres était limitée. Et quand j'avais fini un livre, j'en avais pas tout de suite un autre. Je savais pas trop quoi faire de moi. Et c'est cela qui est resté pour moi essentiellement. Et tout ça, en même temps, si vous voulez, que tout de même, des promenades, la campagne sous le soleil, la chaleur un peu écrasante, ces moments où on ne sait pas très bien si on est bien ou mal, si c'est triste ou gai, si c'est beau ou monotone. J'ai le souvenir tout de même d'un départ au bord de la mer. Nous sommes allés sur la Méditerranée. Nous avons passé un mois. Alors là, ça a été une espèce d'explosion de bonheur et de joie. La mer que j'avais vue quand j'étais toute petite, mais que je n'avais pas retrouvée depuis. Ce dont je vous parle, j'avais 10 ou 11 ans. Eh bien, ce qui restait pour moi, c'était le bonheur de me lever le plus tôt possible, dès qu'on me le permettait le matin, de courir sur la plage au moment où personne n'y avait encore marché, et de trouver quelques coquillages. Et vous savez qu'il y en a très peu sur la Méditerranée. Et l'impression était pour moi tellement forte que pendant des mois, pendant peut-être des années après cela, je rêvais la nuit que j'étais sur une plage, que je ramassais des coquillages, qu'il y en avait beaucoup d'ailleurs, beaucoup plus que je n'en trouvais en réalité. Et je commençais à me dire au bout d'un moment, tout en ramassant mes coquillages dans mon rêve, c'est pas possible, c'est trop beau, je suis en train de rêver. Et à ce moment-là, je me réveillais. C'est peut-être au fond l'image de vacances enfantines qui est la plus vacances que j'ai gardée. Vers la fin de mes études, même un petit peu avant. Alors les vacances sont devenues synonymes de voyage, parce qu'en effet, j'ai commencé ou à aller à l'étranger, ou à aller dans des endroits où j'avais envie d'aller. Et les vacances sont devenues ce qu'elles doivent être sainement pour quelqu'un, c'est-à-dire ce moment où on met entre parenthèses son travail, et elles sont devenues synonymes de la liberté. Tandis que je pense que mes vacances d'enfant étaient au contraire synonymes de... l'attachement, de la vacuité et de l'attachement, n'est-ce pas? Je me retrouvais dans le cadre, dans le train-train de la vie de famille.
Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines de ces vacances, soit à l'étranger, soit à la montagne, soit essayer de les mettre en image?
À l'étranger, par exemple, je me rappelle les 15 jours que j'ai passés à Florence, qui n'ont pas été des journées tellement gaies parce que j'étais partie complètement seule. Et c'était peut-être la première fois de ma vie que je passais des vacances seule. Totalement seul, mais je suis partie enthousiasmée parce que j'allais voir l'Italie. Et j'ai eu une espèce de moment d'angoisse arrivé à Florence. Je ne sais plus combien de temps mettre les trains pour aller à Florence, mais cette fois-là, je suis partie de la gare de Lyon à 5 heures du soir. Et je suis arrivée le lendemain à Florence vers 3 heures de l'après-midi, avec une chaleur épouvantable. Et alors, était-ce la fatigue du voyage, la chaleur, ou bien simplement que j'avais vécu dans l'imaginaire et que je me trouvais dans la réalité? Je suis arrivée à Florence, je me rappelle avoir tout de suite voulu faire un tour de la ville, et avoir regardé les choses en me disant, ben oui, oui, c'est ça. Mais j'avais tout ça dans la tête, vous comprenez, j'avais tout vu sur les cartes postales, dans les livres d'art. Alors là, j'ai eu une espèce de moment d'extraordinaire angoisse. Et puis, il a fallu que je m'habitue à Florence, à cette vie à la fois de solitude et de promenade. Et naturellement, quand je suis partie, je suis partie avec un intense regret, parce que j'étais arrivée à m'introduire dans cette vie de, où j'étais à peu près silencieuse. Enfin, je parlais un peu italien aux gens que je rencontrais, mais je rencontrais personne, personne de connu, n'est-ce pas? C'était uniquement des conversations utilitaires. Et puis, c'était ce genre de voyage qu'on fait quand on est jeune et frais émoulu des études, c'est-à-dire qu'on fait des voyages d'art. Aujourd'hui, c'est passé de mode. Les gens osent à peine dire qu'ils vont au musée maintenant quand ils vont dans une ville étrangère. Je suppose qu'ils vont tout de même toujours. Mais à cette époque-là, aller à Florence, ça consistait essentiellement à se promener dans une ville qui était un musée, à aller voir les musées de la ville, essentiellement. Et ça avait quelque chose quand même d'un petit peu inhumain, je me rends compte. Donc il m'a fallu toute une espèce d'adaptation pour à cette vie-là. Et j'ai fait tout ça pendant 15 jours de chaleur atroce, je me souviens toujours, où j'entrais dans les églises pour me rafraîchir, et la veille de mon départ, il a éclaté un magnifique orage, à partir de quoi, lorsque j'ai voulu entrer dans une église, elles étaient devenues étouffantes par rapport à l'air ambiant, et alors j'ai pu enfin me promener vraiment dans les jardins de Florence sans y fondre. Mais ce Florence-là, je suis sûr que je ne le retrouverai pas non plus, parce que je viens de lire, il y a quelques jours, un livre écrit par Mary McCarthy sur Florence. Et j'ai compris que Florence était devenue une ville tellement surchargée de touristes. Il y avait déjà des touristes, naturellement, à Florence. Mais c'était vivable, on pouvait se promener dans les rues. Et si je comprends bien, ça doit être à peu près impossible à l'heure actuelle. Alors, ça encore, vous voyez, c'est des vacances qui sont comme perdues dans le temps. La Méditerranée que j'ai connue dans mon enfance, elle ne se recolle plus avec la Méditerranée actuelle. Eh bien, je pense que la Florence dont je vous parle, elle a disparu aussi.
Est-ce qu'un tableau ou une sculpture vous a particulièrement frappé à cette époque?
Il y a beaucoup de choses que j'ai admirées, il y en a d'autres que j'ai moins admirées, mais ce Florence a été important pour une chose. Dieu sait que les Michel-Ange en avaient vu des reproductions. Mais je pense que de là est partie une nouvelle orientation de ma vie. Parce que j'étais donc jeune professeur à ce moment-là, j'avais beaucoup travaillé pour achever mes études, et pendant mes deux premières années d'enseignement, j'ai continué encore à beaucoup lire, beaucoup préparer mes cours, enfin vraiment une existence assez surchauffée. Et puis, en entrant dans la chapelle des Médicis à Florence, quand j'ai vu les Michel-Ange, je me suis rendu compte tout à coup que pour produire des œuvres comme celle-là, il fallait un artiste complètement engagé dans l'histoire et les luttes de son temps. J'ai eu l'impression, vous voyez, comme si j'avais vécu jusque-là dans une boîte, comme, je sais pas, ces petits insectes que les enfants mettent dans des boîtes avec des petits trous pour respirer, n'est-ce pas? Et jusque-là, je m'étais vraiment pas occupée du monde autour de moi, tout au moins pendant toute ma période d'études. Pendant l'enfance, c'était autre chose. J'étais beaucoup plus ouverte, au contraire, pendant l'enfance. Mais pendant toute ma période d'études, je m'étais écartée de ça. Et alors, je suis rentrée à Paris, et c'est de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à lire des œuvres d'histoire, de politique, et à avoir une activité politique. Souvenir aussi pendant cette période je vous dis fin d'adolescence, début de ma vie de professeur, des vacances que je passais dans la maison de ma grand-mère. C'est dans un petit village entre Nîmes et Montpellier. J'y passais en général la fin d'août ou la deuxième quinzaine d'août et la première de septembre. Et c'était des vacances qui m'est assez difficile d'évoquer, et pourtant elles sont, je n'ai pas, j'ai pas eu de maison d'enfance. Vous me direz qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'en ont pas, mais de mon temps on en avait des maisons d'enfance. En tant que fille de fonctionnaire, j'étais baladée d'une ville à l'autre, et alors c'était chaque fois des arrachements, des transplantations, tandis que dans cette maison de ma grand-mère, ça a été un retour à des espèces de sources qui étaient des sources d'ailleurs que je n'acceptais pas tellement parce que ce village me paraissait endormi, avec quelque chose de triste. Et puis il suffit d'aller dans un village qui est le village de votre grand-mère, vous avez l'impression qu'il n'y a que des vieillards dans ce village, parce qu'en effet votre grand-mère connaît les gens de son époque, et puis ce sont ces vieilles dames ou ces vieux messieurs qui viennent, qu'on va voir, dont on parle, il y en a un qui est mort, des histoires d'héritage, ça faisait quelque chose d'assez triste. Et en même temps, et peut-être aussi, alors là, c'est le caractère de vacances d'adolescent, ce sont des moments, les vacances, où on pense à soi. Et à ce moment-là, on n'existait pas. Un adolescent, ce qu'il y a d'inquiétant pour lui, c'est qu'il n'a pas encore fait ses preuves, il ne se connaît pas, il n'existe pas, il passe son temps à se mépriser ou à se dégoûter lui-même. Alors j'ai le souvenir de ces vacances d'août écrasantes, où je me sentais d'ailleurs un peu vacante, naturellement, et sans aucune espèce de confiance en moi, de courage devant la vie, à certains moments. À d'autres, alors je dévorais des livres parce que c'était une espèce de préparation à l'avenir. Alors je passais des journées entières à lire les cahiers de la quinzaine qui se trouvaient dans cette maison-là, les collections de Peggy, mais vraiment des journées entières, à en avoir mal aux yeux le soir. Et en même temps, avec ce que ça avait d'un peu étouffant et d'un peu angoissant, bah, c'était un pays que j'aimais, n'est-ce pas ? C'était une certaine qualité de lumière, des choses qui sont uniques d'une certaine façon, qui vous donne une certaine couleur à une certaine période.
Et peut-être était-ce un lieu fixe, enfin un lieu où vous c'était vous un retrouviez. Lieu
alors, je m'y retrouvais et ça sert de point de repère, alors, n'est-ce pas ? Il y avait des années où c'était en quelque sorte réussi, où il y avait une espèce d'élan. Et puis d'ailleurs, il y avait autre chose. Il y avait quand même des impressions d'animation et de liberté. Nous montions pas mal à cheval à ce moment-là. Vous savez, les petits chevaux de Camargue, on allait chercher les taureaux pour les fêtes de village. On allait les chercher au Quélard, on allait les chercher du côté d'Aigues-Mortes, on les ramenait dans les villages. Tout ça, c'était assez passionnant. On revenait complètement blanc de poussière jusqu'aux cils. Alors il y avait ce mélange, c'est pas, de vie physique très violente, de lecture à force et d'anxiété devant l'avenir. C'était fait de ça, mes vacances, à ce moment-là. Et celle-là, je ne les regrette pas du tout. Et d'une certaine façon, c'est peut-être parmi les vacances les plus pleines que j'ai passées, en définitive.
Il est curieux de constater que vos vacances sont marquées, d'une part, par l'idée d'écrasement, de chaleur, un peu de révolte, et en même temps, d'inquiétude, d'angoisse, d'anxiété, non ?
Oui, parce que je vous parle essentiellement de vacances de jeunesse. À partir d'un certain âge, je pense que les vacances sont devenues quelque chose de plus sain, peut-être. Alors, je pense à des vacances de montagne. Je pense même pendant la dernière guerre, n'est-ce pas, où j'habitais Grenoble. Eh bien, l'été, on n'allait pas encore très loin. C'était encore un moment où on ne pouvait pas beaucoup voyager, n'est-ce pas. Mais enfin, on montait dans un petit village de montagne. Et puis, je faisais des courses en montagne toutes les fois que je pouvais. Et alors là, c'était vraiment... Ça, la montagne me donne une espèce de bonheur parfait. J'ai jamais fait de l'alpinisme à proprement parler, j'ai fait simplement de longues courses. J'ai une certaine résistance physique, mais enfin, qui n'est pas extraordinaire, pas exceptionnelle. Mais une montée tuante, et puis l'arrivée en haut, le sommet, l'air qu'on respire au sommet, ou bien alors les réveils le matin de très bonne heure quand on part, ou le soir quand on rentre et qu'on est épuisé, ça donne une espèce de plénitude physique qui est extraordinaire pour des gens qui mènent une vie intellectuelle. Parce que c'est très beau d'avoir une vie intellectuelle, enfin vous comprenez, de savoir qu'on est cela et pas autre chose d'une certaine façon. Mais il y a toujours des morceaux de vous qui sont pas très contents. Et alors qui à d'autres moments prennent une revanche éclatante, et peut-être d'autant plus éclatante qu'ils ont été davantage privés ou qu'on les a davantage repoussés à d'autres époques.
À partir du moment où vous êtes senti libre d'organiser vos vacances, la couleur de ces vacances a changé.
Certainement, parce que les vacances sont devenues justement un synonyme de liberté.
Alors, oui. Alors là, ça a été les voyages à l'étranger, l'impression du dépaysement total. Une espèce d'ivresse quand on franchit la frontière. Quand j'y repense, c'est quand même très enfantin, vous comprenez. D'un côté d'une frontière, de l'autre côté, il n'y a pas tellement de différence, n'est-ce pas. Mais cette espèce de plaisir qu'on a à découvrir que tout est un peu autre de l'autre côté de la frontière. Ou à croire que ça l'est, ou à chercher des preuves que c'est un peu autre. Et tout ce qu'on découvre est quelque chose de découvert absolument. Encore une fois, c'est enfantin. Il y a un tas de rues et de quartiers que je ne connais pas encore dans Paris. Je pourrais aussi bien y partir à la découverte. Ça m'arrive de temps en temps, mais pas très souvent.
Non, c'est le dépaysement.
C'est le dépaysement. C'est le dépaysement. Et un dépaysement que j'aime avoir en vacances, que j'aimerais pas avoir durablement. Parce que je suis relativement casanière, je n'aimerais pas m'expatrier. J'ai pensé un moment passer un an aux États-Unis. Les circonstances m'ont empêché, on m'a pas donné mon visa à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas regretté trop. Parce que l'idée de passer tout un an en dehors de France, ça me pesait plutôt. Je crois que je m'y serais faite, c'est pas la question. Mais j'en avais pas, c'était pas débordant comme envie. Tandis que le départ en vacances à l'étranger pour un temps limité de loisirs purs, alors c'est passionnant, maintenant encore ça m'enchante.
Je crois qu'il y a un troisième aspect des vacances que vous souhaitez évoquer.
Et alors, le troisième aspect, c'est celui que je connais peut-être depuis, je ne sais pas, peut-être 10 ans, peut-être moins, peut-être un peu plus, et qui d'ailleurs n'est certainement pas personnel, particulier, c'est qu'à partir d'un certain moment, j'ai découvert que je passais mon année à penser à mes vacances prochaines. Vous me direz que ça peut être une question d'âge, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Parce que j'ai vu autour de moi les gens de plus en plus dans le même état. Des adultes jeunes, des adultes plus âgés, des enfants, des adolescents. J'ai l'impression que ça tient simplement au fait que la vie dans les villes est devenue tellement oppressante que, d'une certaine façon, on ne peut plus la supporter. Et alors, autant il est sain, je trouve, de partir en vacances avec cette rupture que représentent les vacances, le fait de mettre de côté toute chose et de savoir qu'on les retrouvera après et de revenir frais, autant il est malsain quand on a souhaité les vacances, de revenir de vacances avec regret, avec dépit, et en se disant encore 11 mois ou encore 10 mois avant d'avoir d'autres vacances. Parce qu'à partir de ce moment-là, la vie apparaît comme une espèce de succession de mois de vacances, n'est-ce pas, séparés par des espèces de grandes zones sombres, tristes, fatigantes. Et alors là, je crois que toute la condition de l'homme moderne est là.
Ça, c'est lié à la fatigue.
C'est lié à la fatigue, c'est lié à la hâte. C'est lié au fait que la rue n'est plus un milieu où on peut se promener. Je suppose que si j'habitais une petite ville de province, ça serait pas ainsi. Mais alors, faudrait qu'elle soit petite, parce que dès qu'une ville commence à être grande, maintenant, elle n'est presque plus praticable aux promeneurs. Je veux dire que dans une ville comme était Paris autrefois, sortir pour faire une course ou n'importe quoi. Ça représentait un moment de la vie. On allait d'un endroit à un autre, mais le trajet était quelque chose en soi. À partir du moment où le trajet devient un moment que l'on a envie de voir s'achever, parce que dans les rues, on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut traverser, il faut attendre devant les clous, ou alors il faut circuler entre les voitures et on manque de se faire écraser, ou alors il faut faire de grands détours quand on veut traverser une place, parce qu'il faut aller d'un passage clouté à un autre passage clouté. À partir du moment où, lorsque vous vous promenez dans les rues de Paris avec un ami ou une amie, vous ne pouvez pas parler parce que vous ne vous entendez pas, littéralement, eh bien, il y a toute une espèce de tissu libre, qui est peut-être un tissu de vacances dans la vie. C'est des vacances de tous les jours, si vous voulez, ces moments-là. Eh bien, ce sont des vacances de tous les jours qui n'existent plus. Vous les avez plus, elles sont autant de fatigue habitées par le désir que ça soit fini, qu'on soit vraiment arrivé au lieu pour lequel on est parti. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que la vie d'un être humain est malsaine.
Il n'y a plus de disponibilité. On ne vit plus pleinement le moment.
On ne vit plus pleinement le moment.
Un an plus tard, nous avons encore passé 15 jours ensemble en Bretagne avec ma chienne Douchka, après avoir déposé Jean-François au Glénan. Je me suis arrêtée dans la baie des Trépassés. La pointe du Raz est devenue une foire, mais la pointe du Vent reste déserte. C'est par là que nous allions nous promener soir et matin. Elle avait repéré une mare pleine de petites grenouilles dorées qui se chauffaient au soleil. Dès que nous approchions, elle se lançait à fond de train pour leur faire peur et les précipiter dans l'eau. Ce fut notre plus beau voyage. Pourtant, elle m'a donné bien du tracas. Elle était en chasse, et dans les villages, les chiens débouchaient de toutes les rues. Je n'avais jamais remarqué qu'il y eût tant de chiens en Bretagne. J'étais obligée de la tenir en laisse tout le temps, j'en perdais le plaisir de marcher. Dès qu'elle était suivie, elle s'arc-boutait et se faisait traîner. Moi, je tirais sur la laisse, je me mettais à courir. Je n'ai pu passer qu'une nuit à Saint-Guénolé-Penmarc, si beau, si éclatant. Il y avait presque autant de chiens que de maisons. Plus que jamais, je cherchais les petits hôtels perdus. Ça m'aurait été égal d'être ridicule en tirant sur ma chienne pour la protéger, en chassant son assaillant de la voix et du geste, mais je ne pouvais supporter de ne plus penser qu'à ça dans les rues. Non plus que m'empêcher de la plaindre, j'ai toujours souffert de lui refuser ce dont elle avait envie. Pourtant, je ne pouvais pas lui laisser faire des bâtards. Je me consolais en pensant qu'un jour, je lui trouverais un beau mâle de sa race. Rien que pour le plaisir de la voir être mère. Elle était si tendre avec son chacha et si passionnée en tout qu'elle eût fait une mère magnifique. Je l'imaginais couchée avec des petits au flanc ou en train de les lécher, de les défendre. Mais ces chasses tombaient toujours mal, en plein hiver, pendant les fêtes, et je n'avais pas le temps de chercher un mâle. Au début des vacances, je ne me voyais pas ramenant à Paris toute une portée encore aveugle. Bref, ça n'a jamais été le moment. Un soir, au nord de la pointe Saint-Mathieu, nous nous sommes longtemps promenés à la marée basse. Le soleil venait de disparaître. La lumière restait déposée dans de longues flaques entre des barres rocheuses empâtées de goémons violets. Des goémoniers en ciré jaune surveillaient la cuisson. Des fumées plus pâles que le ciel montaient droit. J'étais ivre de cette odeur. Elle, ivre aussi, je ne sais de quoi. Je suis allée toucher la pierre chaude des fours, éparpillée comme de grands cercueils barbares sur un champ de mort. Et lorsque j'ai eu une crise de neurasthénie en retrouvant, envahi de touristes et de baigneurs, le port de Douarnenez, où 20 ans plus tôt j'avais vu quelques enfants de pêcheurs godiller dans une vieille plate, quelques vieux se chauffer au soleil, que, subitement, vidé de tout désir, je me suis sentie aussi incapable de descendre de voiture que de pousser plus loin, elle est restée l'après-midi entière sur sa banquette sans protester. Je lui ai donné sa viande hachée. J'ai avalé le jambon de mon pique-nique, puis j'ai passé des heures et encore des heures à lire des hebdomadaires et à faire des mots croisés dans la petite quatre-chevaux, devenue tout à coup mon seul refuge, mon terrier protecteur. Dégoûtée de mon inertie, dégoûtée de ma mauvaise humeur, est-ce que les gens n'avaient pas le droit à leurs vacances? Qu'est-ce que je faisais d'autre qu'eux? Pas totalement abandonnée, puisque je n'avais qu'à étendre la main pour rencontrer sa patte, son museau, ou sa grande queue qui s'agitait gaiement sous mes caresses. Il vient toujours un moment dans ce genre de voyage solitaire et grisant où l'on donnerait sa vie pour deux sous. Elle m'a aidée à passer ce moment. Les mots croisés et les journaux épuisés, j'ai pris les cartes routières. Il y avait encore beaucoup de landes et de villages à l'écart. À la tombée du jour, j'ai regagné l'hôtel et la baie des Trépassés.
Je crois, Colette Audry, que les vacances n'ont pas été toujours pour vous un moment de repos, un moment de détente.
Non, non, j'ai eu et j'ai encore des vacances de travail souvent. Et puis j'ai eu des vacances, au moins une fois dans ma vie, qui ont été des vacances de très grande activité. Je me rappelle par exemple mes vacances de 1936. La tentative de coup d'État en Espagne avait débuté le 18 juillet. À ce moment-là, j'étais en vacances. J'étais en vacances et je ne savais pas du tout cette année-là où j'irais passer mes vacances. Je n'avais pas pensé de toute l'année. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il ne vient pas l'idée maintenant aux gens de ne plus penser à leurs vacances. Je savais que je serais en vacances, je ne savais pas où je voulais aller. Et alors, quand ont commencé les événements, comme on dit en Espagne, à ce moment-là, je faisais partie du comité antifasciste des intellectuels. Et nous nous sommes agités alors fiévreusement pour rassembler du lait condensé, des produits pharmaceutiques pour envoyer en Espagne. Quelques autres objets qui pouvaient être d'une utilité un petit peu plus immédiate. Nous sommes beaucoup occupés de ça pendant quelques jours. Et puis, une de mes amies m'a dit à ce moment-là qu'elle avait loué une villa près de Banyuls pour passer ses vacances-là avec ses enfants. Et m'a demandé si je voulais y aller. J'ai sauté sur l'occasion, simplement parce que c'était là-bas. C'était près de la frontière. Nous sommes allés à Banyuls, il faisait très beau, très content, on a pris des bains pendant 3 ou 4 jours, et au bout de 3 ou 4 jours, nous avons compris que nous ne tiendrions pas, qu'il n'était pas question de continuer à passer des vacances de bain de mer. Alors, nous sommes allés nous présenter avec nos cartes syndicales aux organisations de Perpignan, qui nous ont immédiatement donné une feuille de papier écolier avec 2 ou 3 tampons, c'était le laissez-passer, et nous avons passé la frontière. Je me souviens, nous avons pris un taxi. Il y avait un chauffeur de taxi qui passait son temps à aller de Barcelone à Perpignan et de Perpignan à Barcelone. Alors, je ne sais pas ce qu'il amenait exactement ou ce qu'il venait faire en partant de Barcelone, mais quand il arrivait à Perpignan, souvent il était vide, nous l'avons pris à vide. Et cet homme-là devait passer ses nuits et ses jours à conduire, parce que pendant tout le temps du trajet, dès qu'il y avait un arrêt, ou au passage de la frontière, ou pour telle ou telle raison, il se mettait sur son volant et il s'endormait. Et nous sommes arrivés d'abord à Figueras, je me souviens, sur le coup de 2 heures de l'après-midi, où nous avons été accueillis. Il suffisait d'être français à ce moment-là et de se présenter donc avec les cartes syndicales en question et le laisser passer. Nous avons été accueillis avec enthousiasme. On nous a amenés dans une espèce de maison qui était quelque chose comme une bourse du travail de l'époque. On nous a donné à manger, nous mourions de faim. Nous étions entourés de miliciens espagnols qui venaient de toucher leurs armes et passaient leur temps à désarticuler leurs carabines, à les remonter, à les graisser, à les regarder. Et puis nous sommes arrivés à Barcelone vers le soir. Et ça devait être ça au début d'août. Et je suis restée à Barcelone même pendant près de 2 mois. Je ne suis revenue que pour reprendre mes cours au lycée. C'est-à-dire que, alors à ce moment-là, j'ai parcouru la Catalogne. J'ai vu à peu près toutes les organisations qu'on pouvait voir. J'ai été auprès des milices anarchistes de Durruti. Ça m'allait passer 3 jours, j'ai rencontré dans un coin un Simone Veil, et il était allé aussi. Mais il restait à demeure, il n'est pas engagé dans ses milices. Nous sommes partis, je me souviens très bien, pour aller là-bas avec la camionnette qui transportait le journal anarchiste qui s'appelait Solidaridad Obrera. Alors nous étions passés par Lérida, et Durruti était sur les bords de l'Ebre à ce moment-là. Je me souviens qu'il avait son quartier général dans la maison du curé. Et on a trouvé à nous loger, pour mon compte, il n'y avait pas de lit en ce qui me concerne, mais je ne sais pas pourquoi il y avait un tas de matelas dans cette maison. Alors j'ai dormi sur 7 ou 8 matelas, jamais si bien dormi de ma vie d'ailleurs, tellement c'était doux tous ces matelas. Et puis on avait du très bon vin, c'était le vin du curé qu'on buvait, et nous nous amenait au front, qui était d'ailleurs assez calme à ce moment-là. Je crois même qu'on a tiré quelques coups de canon pour nous faire plaisir. Le soir, il est venu un avion de l'autre côté qui, en représailles, a laissé tomber deux petites bombes sur la place. Enfin, il n'y a pas eu de malheur. Au fond, les choses n'avaient pas encore commencé sur ce front-là. À Madrid, il y avait eu déjà les grands combats. Mais je me souviens aussi de l'état d'esprit qui régnait à ce moment-là. Quand j'avais pris le train pour aller à Perpignan, au fond, dans le compartiment où je me trouvais, les gens ne parlaient que de cela. À partir du moment où je m'étais réveillé le matin, n'est-ce pas? Et je me souviens encore des gens disant « Oh bon, il y en a encore pour 3 semaines, puis ça y sera, vous pensez, ils avancent, etc. » Évidemment, les troupes de Mussolini n'étaient pas encore intervenues. On peut dire que vraiment, les Espagnols se battaient entre eux. Et les Républicains avec des succès. Il y avait dans toute cette ville de Barcelone une espèce d'enthousiasme, de joie extraordinaire. Les meetings étaient suivis, parce que j'ai été dans plusieurs meetings. Vous savez, dans ces cas-là, on promène l'étrangère qui est là. Alors on faisait prononcer 2 ou 3 mots, je les prononçais en français parce que je ne savais pas l'espagnol. Ensuite, c'était traduit, mais les salles étaient toujours pleines, n'est-ce pas? Comble de gens. Et puis, il y avait sans cesse ces départs de miliciens en espadrille qui allaient au front, avec les drapeaux de la Fédération anarchiste ibérique, de la CNT. Ou alors de l'UGT, du Parti Socialiste, c'est plus le Parti Socialiste, c'est le Parti Socialiste Unifié.
Tout le monde était mobilisé.
Tout le monde pratiquement était mobilisé, oui. Et il y avait en même temps une espèce de gaieté, parce que vous voyez, bien sûr, j'y allais en partisane, par conséquent, j'étais disposé à trouver une espèce de joie dans tout cela. Il n'empêche que quand j'allais par exemple chez le coiffeur, eh bien il y avait cette même atmosphère d'entrain et de gaieté qui régnait. Ça a commencé à se gâter. Je me souviendrai très bien, au moment où Irún est tombé. Alors là, je crois que c'est pour la première fois que je me suis dit, mais au fond, ça va peut-être mal finir, tout ça. Et je n'avais pas pensé une seconde, ou presque pas, enfin, ça me paraissait impossible. Mais la chute d'Irún, ça a été vraiment, vous savez, le glas. Il y avait eu quelque chose d'abord, il y avait eu une défaite des Républicains à Badajoz, en Galice. Mais enfin, c'était passé encore pas trop, ça n'avait pas été très visible, c'était passé un peu inaperçu. Mais pendant tout ce temps-là, on espérait l'aide du gouvernement français, qui n'est jamais, jamais, jamais venu. Et puis, il y a eu la chute d'Irún. Et alors ça, vraiment, je vous dis, je l'ai entendu comme une espèce de premier coup de glas. Et je me souviendrai toujours de mon redépart au mois de septembre. Déjà, c'était, vous savez, comme lorsqu'un éclairage change un peu avant l'orage, c'était plus la même chose. Il y avait une espèce de gravité et une espèce d'anxiété que les gens ne voulaient probablement pas encore avouer, mais qui était déjà installée. Et pourtant, on n'était qu'en 36 et ça allait durer encore jusqu'à la fin de janvier 39. J'y étais partie en Espagne un petit peu confuse. Je sais que le mari de mon ami nous avait dit « Qu'est-ce que vous allez faire en Espagne? La Révolution n'a pas besoin de touristes. Vous y allez en touriste. » Alors, heureusement, j'avais trouvé à travailler. C'est-à-dire que j'ai travaillé à un bulletin d'un petit parti révolutionnaire espagnol qui s'appelait le PUM, qui s'est mis à éditer un petit bulletin en français, n'est-ce pas, pour faire connaître ce qui se passait en Espagne. Et ça a été mon apprentissage dans le domaine du journalisme, parce qu'au fond, je faisais tout dans ce bulletin, excepté composer, parce que je ne suis pas ouvrier typographe. Mais enfin, je faisais des articles, je traduisais des articles de la presse espagnole, je les tapais à la machine, les articles, je faisais la mise en page, je corrigeais les épreuves. Et alors, ça me faisait tout de même quelques heures de travail par jour. Tout ça au milieu, d'ailleurs, de ce rythme de vie espagnol qui n'avait pas complètement changé, en ce sens que, il ne faut pas oublier, c'était le mois d'août, alors on mangeait généralement vers 2 ou 3 heures de l'après-midi, puis il faisait tellement chaud, on allait se reposer jusqu'à 5 heures, et puis la vie reprenait jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. Ça fait que je découvrais à la fois et l'Espagne, et la Révolution, et toute cette levée du peuple. Quand je suis rentré à Paris, évidemment, c'était tout de même la première année de congés payés, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas tellement de gens qui prenaient de vacances encore à ce moment-là, d'une part. Et puis, tout de même, l'ensemble de la population était très sensibilisée à la question espagnole. Lorsque Léon Blum avait fait son grand discours de Nuit à Parc pour expliquer sa politique de non-intervention, il y avait un monde fou, n'est-ce pas ? C'était le moment où il y avait encore des auditoires énormes en France. Le pays était politisé à ce moment-là. Simplement, les gens se sentaient déjà impuissants, n'est-ce pas, à faire remuer et à faire changer le cours des événements. Déjà, cette espèce de sentiment d'impuissance qui allait grandir pendant tout le déroulement des événements d'Espagne, qui allait poursuivre jusqu'à Munich, n'est-ce pas, alors jusqu'à la déclaration de guerre, ça commençait. Ça commençait, alors je me rappelle très bien, cette rentrée, elle a été pénible pour moi, ça m'a été dur de quitter l'Espagne. Ensuite, je suis parti avec cette impression d'anxiété qui ne s'est plus relâchée, et pour cause. Ensuite, il y a eu une rentrée qui n'avait plus rien de ce qu'avait eu d'éclatant, n'est-ce pas? Cette fin d'année scolaire avec les élections de mai, l'arrivée du Front Populaire, vous savez, il y a eu des choses comme le suicide de Salingros, par exemple. Et alors, on a senti qu'on s'enfonçait progressivement dans le noir, dans une espèce de tunnel dont on est un peu sorti qu'en 1944.
Je suppose que vous n'avez pas pris de vacances durant la guerre de 40-44.
Bien, la guerre de 40, je l'ai passée à Grenoble. Je suis arrivée à Grenoble en fin juillet 41 et j'en suis repartie fin septembre 44. Et il y a un été où je n'ai pas pris de vacances du tout, je ne suis pas partie, c'est l'été de la Libération. Nous avons eu des grandes vacances prolongées cette année-là, parce qu'on sentait bien que tout fichait le camp. Nous avons eu d'ailleurs une chose assez extraordinaire. Les gens n'ont pas l'air de s'en souvenir, ou bien est-ce que c'est seulement dans notre coin que ça a été fait? On nous a payé un mois double. On n'a jamais su pourquoi, sinon parce que le gouvernement Laval voulait s'assurer la sympathie des fonctionnaires. De toute façon, c'est pas beaucoup plus assuré. Mais enfin, on nous a payé un mois double et on nous a libérés fin juin à peu près. Nous avons dû gagner près d'un mois de vacances, ou enfin trois bonnes semaines. Le débarquement avait eu lieu le 6 juin, et depuis ce moment-là, on attendait les communiqués, puis on sentait que l'échéance se rapprochait. À ce moment-là, j'avais mon fils qui avait même pas 3 ans, que j'avais mis à la montagne chez ma mère, en pensant qu'il serait plus tranquille. Je crois que j'étais pas beaucoup plus tranquille, parce qu'il y avait aussi des maquis par là. J'essayais d'aller le voir, c'était presque impossible, parce que Grenoble était pratiquement coupée chaque jour et plusieurs fois par jour, il y avait des explosions sur les lignes. Et quand on partait pour une certaine direction, on ne savait jamais quand on arriverait ni par quel moyen. À un certain moment, il fallait abandonner le train, on faisait de l'autostop avec un camion, etc. J'ai pu aller le voir pendant tout cet été, une fois et encore, et après la Libération. Mais avant, c'était presque impossible de bouger. Je me souviens que les premiers temps ont été quand même encore assez angoissants parce que nous avons assisté à Grenoble à la montée des troupes allemandes dans le Vercors. Nous les avons vus partir avec les camions camouflés avec des branchages, des tenues un peu tigrées. Après ça, nous sommes restés des jours à regarder le Vercors fumer, flamber, sans savoir ce qui se passait. C'était quelque chose d'abominable. Nous avons vécu ça avec, vous savez, les on-dit qu'on pouvait avoir, mais on savait encore très peu de choses. J'avais une amie dont le mari était dans le Vercors, qui a pu d'ailleurs se sauver. Puis nous avons vu plus tard redescendre certains amis du Vercors. J'en ai revu un en particulier qui avait été avec Jean Prévost jusqu'à la fin. N'est-ce pas ? Ils étaient 4 ou 5, je crois, à s'être réfugiés dans une grotte. Et à ce moment-là, il était au bord de la dépression parce qu'il était le seul survivant. N'est-ce pas ? Il avait là mangé un sac de farine. Je me rappellerai toujours qu'il m'a raconté aussi qu'il faisait très chaud, qu'il n'avait pas d'eau. Alors il y avait une espèce de flaque d'eau par là. Et ils allaient prendre un peu d'eau dans cette flaque pour boire. Et leur désespoir un matin en découvrant qu'il y avait un chien qui était venu crever dans cette flaque. Et puis ils se sont séparés. Jean Prévost leur disant à chacun de tâcher de se débrouiller comme il pouvait. Et ce qui a valu à l'ami en question, c'était Simon Nora, d'avoir la vie sauve, c'est que sa mère se trouvait à Villard-de-Lans. Il n'est pas allé avec les autres, il est allé l'embrasser avant d'essayer de redescendre sur Grenoble. Alors, les vacances ont commencé comme ça. Et puis, après cela, tout de même, on a senti vraiment que les choses tournaient après ce drame. Je me souviendrai aussi toujours du départ des troupes allemandes. Parce que il y a eu le débarquement qui a dû avoir lieu le 15 août, le débarquement sur les côtes de la Méditerranée. Et là, on a su à ce moment-là que les Américains allaient arriver. On s'est mis à les attendre. On se demandait où ils pouvaient être. Ils sont là. Enfin, tous les bruits qu'ils pouvaient courir. Et tout le monde était persuadé, d'ailleurs, qu'on allait se battre dans les rues de Grenoble. Ça fait que je sais que je ne couchais plus du tout chez moi. De peur de me trouver seul dans une cave, parce qu'on nous expliquait quand la population serait astreinte à rester dans des caves, on lui conseillait de faire quelques provisions. Moi, j'avais que des flocons d'avoine chez moi, je savais pas trop comment je les aurais mangés. Alors, je m'étais mis à coucher chez des amis par-ci, par-là, pour être sûr au moins que je ne serais pas seul dans une cave à me ronger les poings. Et puis, un beau soir, enfin, une fin d'après-midi très grise, très orageuse, comme il y en a quelquefois dans ces villes qui sont entourées de montagnes. Vous savez, Grenoble est dans une sorte de trou, très orageuse. Il y a eu une espèce d'agitation extraordinaire dans les casernes allemandes. Et puis on a vu les Allemands s'en aller, n'est-ce pas, en formation de marche. Très lentement. Ils sont partis. Et puis ça a duré quelques heures. Tout de même, le temps du départ, je vois encore moi la caserne que je surveillais un petit peu. Les gens attendaient. Pas plus tôt ils ont été partis, la population s'est ruée dans les casernes. Et a pillé tout ce qu'elle pouvait piller. Mais je sais pas, il n'y avait pas grand-chose à piller. D'ailleurs, il y avait quelques postes de TSF, il y avait quelques meubles. Mais c'était, vous comprenez, une espèce de pillage enthousiaste. Une espèce de joie. Ça y est, ils étaient partis. Ça, c'est vraiment un moment que j'oublierai jamais. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment la peine d'avoir vécu, pour avoir vécu ce moment-là, ce moment où c'était fini, où ils étaient partis, où ils étaient battus, où vraiment, enfin, ce qu'on avait pu voir en Espagne, ce qui s'était passé à travers toute l'Europe, eh bien, ça commençait à prendre fin.
Écoutons maintenant des extraits d'une nouvelle inspirée par cette période de la fin de la guerre.
Moi, je gardais ce rhum pour la fin de la guerre. J'imaginais cette nuit comme il n'y en aurait plus jamais d'autre, et nous quatre dans notre coin, illuminés par la flamme du punch. Mais quand Elisabeth a connu l'existence du rhum, vous êtes complètement folle, me disait-elle. On n'aura pas besoin de rhum à ce moment-là, on en aura tant qu'on voudra. J'étais sceptique, mais ai-je reconnu, c'est vrai qu'alors on pourra s'en passer. Marcel riait et Anya mit fin à mes hésitations en déclarant qu'il fallait fêter notre chance à Elisabeth et à moi de nous être tirés d'une affaire ennuyeuse. Elle ajouta qu'elle fournirait le sucre. C'était Julina qui avait apporté ce rhum. Julina, un jour, avait eu le mal du pays dans sa cuisine, sur cour, et elle était repartie sucer des bouts de canne à sucre fraîche à la Martinique, du moins à ce que je pensais sur la foi d'un gros livre bleu à tranches dorées qui avait fait rêver ma mère sous ses oliviers quand elle avait 6 ans, et qu'elle m'avait transmis dès que j'avais su lire. Il s'appelait « Yette, histoire d'une jeune créole ». Nous pensions ne plus revoir Julina. Mais 9 mois après, elle sonnait à la porte, les bras encombrés de choses précieuses, des bâtons de vanille poisseux comme de la réglisse, de l'écorce de cannelle et quelques litres de rhum, un rhum de miel clair et roux, cacheté de cire. En 41, quand je quittais Paris pour aller m'installer en province, j'enfourais une bouteille dans ma malle. Lorsque j'entrais dans la cuisine, Elisabeth était déjà là, en train de fumer, assise en face de Marcel, tandis qu'Anya préparait le dîner. Il y avait un paquet de cigarettes sur la table. Je ne connaissais pas encore bien Marcel et Anya, nous avions des amis communs, aussi des ennemis. Nous vivions dans ce monde comme des émigrants à l'avant d'un bateau prêt à mettre le pied sur la rive nouvelle. Maintenant, nous achevions de dîner. Marcel avait déjà rempli plusieurs fois son verre. Elisabeth disait qu'elle se réservait pour le meilleur. Je trouvais cela mesquin et je buvais tout ce qu'on me versait. Nous étions nous. Dans les jardins d'en face, les pêchers avaient déjà des fleurs. Et plus loin commençaient les montagnes profondes, l'une derrière l'autre, de plus en plus pâles. On ne pouvait nous enlever cela, au moins ce soir. Je ne sais plus de quoi nous parlions. Je pensais, je suis chez les miens. Il y avait longtemps que cela ne m'était arrivé. Je n'étais même plus sûre d'avoir des miens, et j'en avais pris mon parti. Il faisait si clair qu'on aurait gâché le punch en l'allumant. Tout dans le crépuscule prenait une belle substance épaisse. Les fleurs de pêcher luisaient comme une cire rose éclairée en veilleuse. Les toits et les troncs étaient de velours, une pâleur beurrée enduisait les façades. C'est à ce moment-là qu'Anya m'apprit qu'elle était née près de la mer d'Aral. Cela me parut incroyable. Au fond d'un désert sombre, je voyais une petite fille sévère assise sur ses talons parmi des prêtres vêtus de longues robes à raies rouges et jaunes. Des bords de la mer d'Aral, elle était venue dans cette cuisine boire le rhum de Julina. Je versais la moitié de la bouteille dans la casserole et je comptais, un peu au hasard, 12 morceaux de sucre, puis j'en ajoutais 3 au moment de le mettre sur le feu. Marcel tourna le bouton électrique. Elisabeth fumait la pipe, une petite pipe en terre blanche, qui représentait une tête de mort avec une grande barbe et un turban. En se culottant, le fourneau avait bruni, mais inégalement. Les joues s'étaient basanées. Les ondes de la barbe striées de blanc et de brun, le blanc des yeux était resté tout blanc. Elle était fière de cette pipe. Elle riait, et quand cela lui arrive, on ne voit plus ses yeux, il ne reste que ses joues à rire, passionnément. J'étais sûre qu'elle riait pour Marcel, et lui avait l'air amusé. Elle dansait comme une flamme devant lui. En face de moi, Anya s'était appuyée au dossier de sa chaise, elle avait croisé les bras, et de ses yeux mi-clos, elle semblait regarder au fond de mon crâne. Il faisait bien nuit maintenant. J'ai posé la casserole au milieu de la table. Marcel a éteint la lumière. J'ai mis le feu au punch et nous avons tous crié d'enthousiasme. La flamme était légère, mauve et blonde, folle comme une gaze, révoltée, folle d'elle-même. Elle se déchirait et s'envolait et se substituait à elle-même inlassablement. Nous nous sommes regardés les uns les autres. Marcel était une figure de pierre au coin d'une forge. Des ondes roulaient sur le visage d'Anya, comme sur une prairie. Elisabeth, penchée au-dessus de la casserole, buvait la flamme avec ses cheveux. Mais, comme cela n'en finissait pas de brûler, j'ai soufflé sur la flamme et elle s'est écrasée en ronflant, puis est repartie de plus belle. Marcel a soufflé de toutes ses forces. On entendait son souffle, mêlé au ronflement féroce de la flamme. Quand il s'est arrêté pour reprendre haleine, Anya a soufflé un tout petit peu. Comme sur le doigt d'un enfant qui s'est piqué. Et la flamme a disparu. C'est ainsi que se passaient les choses ce soir-là. J'ai rallumé l'électricité. Anya nous a versé le rhum qui avait tourné au brun sucre d'orge. Il fumait dans les verres et sa surface se drapait blanc comme le flanc d'un cheval en nage. Nous n'avons pas porté de toast. La même pensée était au fond de nous. Nous avons commencé à boire et à partir de ce moment, nous nous sommes tous tutoyés. « Tu ne connais pas une chanson qui s'appelle Valparaiso ?» demandait Marcel. Je me suis mise à chanter et quand j'avais oublié les paroles, je faisais « talalim, lalim, lala ». Je n'aime pas chanter devant les autres, cela m'intimide, je ne sais où mettre les yeux. Mais avec ce punch, le chant coulait de moi et m'emmenait avec lui. Plus rien ne m'empêchait de chanter. Je choisissais les airs les plus rauques. Mais pour la guerre, on trouvera toujours du sang rouge qui coulera. « Cécile, je t'aime, » déclara Elisabeth d'une voix venue de très loin, petite comme celle d'un enfant. « Je t'aime parce que tu as chanté mon chant. » Les autres ont ri, et à partir de ce moment, c'est elle, décidément, qui est devenue le spectacle de notre soirée. « Je t'aime, Cécile, » répétait-elle. Mais j'étais sûre que ce n'était pas à moi que s'adressaient ces mots. Elle a exigé que je recommence la chanson. Je ne demandais pas mieux. Quelle volupté de lancer à la face du monde toujours du sang rouge qui coulera. Je me sentais puissante comme une femme qui surprend sur elle, pour la première fois, le regard d'un homme qui va l'aimer. Marcel avait peut-être ce regard, peut-être pas. Mais je ne tournais pas les yeux vers lui. Le canon tonne, nos pas résonnent. Nous nous sentions désignés. C'était pour nous ce soir-là, accrochés les uns aux autres au milieu de ces bruits de bottes attardées sur la chaussée, que cette chanson était née. « Ma petite Cécile, je n'oublierai jamais ça de toi, » disait Elisabeth. « C'est mon chant, tu comprends, parce que c'est un chant de mort. La mort, c'est l'important. On est libre de mourir. La liberté, c'est la liberté de mourir. Tu t'embrouilles. Tu veux dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut parce qu'on meurt. C'est la liberté par la mort. Mais on est libre parce qu'on est libre, voilà tout, dis-je. Mais l'avais-je dit vraiment? Personne ne parut l'entendre. Je n'aimais pas l'idée d'Elisabeth. Je ne voulais pas de cette garantie-là. Elisabeth prit la bouteille et remplit les 4 verres. Et je demandai à Anya des chansons de son pays. Ce fut Marcel qui les chanta, les partisans d'abord, puis les joyeux garçons. J'attendais Sten Karazin, et quand il l'entonna, je débordais de bonheur. Voilà le vent de la liberté qui s'élève lentement au-dessus des plaines et de l'immense fleuve et qui va tout balayer. Marcel était beau en chantant, son cou se gonflait comme celui des statues antiques. À ce moment, Elisabeth a voulu me verser encore à boire. J'ai refusé, elle s'en est irritée. « Tu ne vas pas me faire ça, » me disait-elle. Mais je ne me souciais pas de lui déplaire à elle ni à personne. Je ne voulais plus boire. Je ne voulais rien perdre de ce qui suivrait. J'étais au centre d'un tourbillon. On dit qu'au fond du cyclone, il existe un trou de calme qui aspire tout. « Je ne te tutoierai plus, » menaçait Elisabeth. « Que m'importait ?» Elle a fini par vider la bouteille dans son verre et dans celui de Marcel. Elle était comme une flamme jaune et mauve qui s'envole et renaît. Mais Ania était grise, appuyée au dossier de sa chaise avec ses paupières de cire. Elle était calme et un peu terreuse comme un grand œuf d'oiseau dans les joncs, un œuf de sarcelle au fond de la steppe, sur les bords de la mer d'Aral. Y avait-il des sarcelles là-bas? Certainement. Ça devait être plein d'oiseaux gris de marais. Je demandais à Ania, elle ne s'en souvenait pas. « Cécile, je t'aime parce que tu as chanté mon chant, » disait Elisabeth. « Moi, tu comprends, je suis bonne et sincère. » Je fus choquée, je n'aime pas qu'on dise cela, même quand on est sous. « Je suis bonne et sincère, » insista-t-elle, en secouant la tête. Et elle avait l'air d'une longue flamme insatiable. Les autres se mirent à rire. Tout à coup, Ania dit « Je n'aime pas les femmes. Elles ne pensent qu'à elles et à leur vie. » Si on leur parle d'un bombardement, elles vous répondent « Oui, justement, j'étais en train de me coiffer quand... » Les hommes, c'est plus grand. « Oh, par exemple, » m'écriai-je, « je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas qu'on me voue à être petite. Tu vois, tu parles tout de suite de toi. Pardon, moi, Cécile, que je sois petite, ça m'est égal. Ou plutôt, ça ne me fait pas peur. Je m'en charge. Mais que je le sois parce que je suis une femme, rien à faire. » Ania ne répondit pas. Marcel avait l'air intéressé. Il se demandait si j'étais en colère. Elisabeth n'avait pas écouté, elle regardait Marcel. Je commençais à considérer Ania avec tendresse. Qu'avait-elle de commun avec toutes ces femmes? Nous étions trois autour de cet homme, elle comprise. Elle en avait assez, elle changeait de côté. Moi, j'étais bien de sentir cet homme près de moi, je ne pouvais oublier sa présence. Il était comme le pôle de cette soirée. Mais autour de nous, dans la nuit, attendait tout ce que la vie et le monde nous imposaient, à quoi l'on ne pouvait se dérober. Combien étaient-ils tombés de frères d'Ania ce soir-là, pendant que nous buvions sous la lampe?
Et actuellement, Colette Audry, comment organisez-vous vos vacances?
Alors, mes vacances, je vais les passer d'abord dans une petite maison que j'ai dans l'île de Léron. J'y passerai le mois de septembre. Et puis alors, au mois d'août, je pense aller en Savoie. Mais ça va être des vacances de travail, parce que j'ai à écrire une étude sur Sartre, qui m'a été demandée par Segers, dans sa collection des philosophes. Alors, je vais passer mon été à ça. Je le dis sans tristesse d'ailleurs, mais enfin ça va être quand même des vacances un peu dures. Ça m'ennuie pas parce qu'au fond, je suis en train de prendre des grandes vacances définitives, parce que je viens de quitter l'enseignement. Donc j'entre en vacances maintenant, et je trouve plus réconfortant d'entrer en vacances avec un travail en perspective.
C'était Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Colette Audry. Texte lu par Laurence Mercier, assistant Jean-Marc Siafarikas.
Cette émission a été diffusée la première fois le 19 août 1965 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.